très bonne question pour vous. Puisqu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, pourquoi les chrétiens devraient-ils en accomplir? La parole de Dieu va nous donner une réponse encourageante pour tous les croyants, aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, j'aimerais tout simplement exprimer combien je suis reconnaissante envers notre grand Dieu pour tout l'enseignement qu'il nous donne chaque jour dans sa parole au cours de nos émissions. Alors c'est avec joie que je vous invite à écouter les questions qu'on va lui poser dans le livre de l'Apocalypse aujourd'hui. Quels sont ceux qui seront appelés à donner leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ lors de la grande tribulation? Puisqu'on n'est pas sauvé par nos bonnes œuvres, pourquoi les chrétiens devraient-ils en accomplir? Pourquoi les tribus et les nations de la terre se lamenteront-elles quand elles verront Jésus-Christ redescendre sur cette terre dans toute sa gloire? Est-ce que la tâche des croyants est de semer ou de récolter? Quand est-ce que le temps de la récolte viendra? Les vêtements de Jésus seront-ils tachés de son propre sang lors de son retour sur la terre? Restez avec nous. Le Seigneur est sur le point de nous enseigner sa parole merveilleuse par la bouche du pasteur Régent Joly. Mais premièrement, demandons à Dieu de disposer nos cœurs et nos pensées, afin qu'on comprenne bien ce qu'il désire nous transmettre dans son amour. Prions. Merci Seigneur pour ta belle parole. Merci de nous l'enseigner. Merci de nous encourager, de nous consoler par elle, de nous exhorter par elle, de nous montrer quand on est sur une mauvaise voie par cette parole. Enseigne-nous aujourd'hui par la bouche de ton serviteur et aide-nous à être attentifs, à bien recevoir ce que tu as pour nous. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Nous continuons notre étude du livre de l'Apocalypse au chapitre 14. Un hymne aux morts en Dieu. Le verset suivant est trop souvent appliqué à notre situation actuelle. Cette application est erronée, puisque ce passage fait référence au temps de la grande tribulation. Chers amis, débutons notre lecture, Apocalypse chapitre 14, le verset 13. « Et j'entendais du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. » Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apparemment, un bon nombre des 144 000 élus de la nation d'Israël, en plus du nombre inconnu d'élus des autres nations, seront appelés à donner leur vie pour le Seigneur Jésus-Christ durant ces temps sombres. Ils témoigneront de leur foi jusqu'au martyr. Comme nous l'avons déjà vu, pendant ce temps d'intense oppression et souffrance, la mort semblera un sort enviable pour les survivants. Ce verset donnera aux élus force, assurance et courage, tout comme les évangiles et les épîtres en donnaient aux chrétiens persécutés et martyrs de l'Église des premiers siècles. Les élus se reposeront de leurs chagrins et de leurs travaux, car leurs œuvres les suivront et le Seigneur les récompensera. Je le répète, ce verset ne s'applique pas aux chrétiens actuels et surtout pas à ceux qui vivent dans le confort en Amérique du Nord ou en Europe. La plupart d'entre nous ne souhaitent pas mourir. Car après tout, la vie n'est pas si désagréable. Or, la position de l'apôtre Paul devant la mort est plus ambiguë, comme on peut le constater dans Philippiens chapitre 1, versets 23 à 26. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et je suis persuadé. Je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi, afin que, par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. L'apôtre Paul avait compris que la vie chrétienne n'est pas une vie centrée sur soi, mais une vie centrée sur les autres. S'il n'en tenait qu'à lui, il serait mort tout de suite afin d'aller retrouver le Seigneur au ciel. Mais il savait que son travail ici-bas n'était pas terminé et qu'il devait continuer de paître le troupeau du Seigneur. Plus tard, l'apôtre Paul ne change pas d'avis quand l'heure de son exécution par décapitation approche dans 2 Timothée chapitre 4 verset 7. « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. En ce qui me concerne, j'aimerais rester ici-bas un peu plus longtemps pour enseigner la parole de Dieu. » Un nombre effarant de francophones à travers le globe ignore tout de la grâce du salut en Jésus-Christ. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous traduisons et adaptons les textes, aimait raconter cette histoire d'un jeune garçon qui était allé à l'église le dimanche. Le prédicateur avait demandé aux fidèles combien d'entre eux désiraient aller au ciel. Tout le monde avait levé sa main, sauf le garçon. L'homme a regardé le jeune garçon avec étonnement et lui a demandé « Tu ne veux pas aller au ciel, mon petit ?» Et l'autre de répondre « Bien sûr, mais je pensais que vous cherchiez des volontaires pour aujourd'hui. » À son âge, il n'était pas pressé, et même si je suis plus vieux, je ne le suis pas, moi non plus. Si Dieu vient me chercher aujourd'hui, je suis prêt à partir. Je devrais quitter tôt ou tard de toute façon. Mais en attendant, je désire vivre et servir le Seigneur aussi longtemps qu'il le jugera bon. Je ne désire pas vraiment mourir, mais au temps de la grande tribulation, il sera tout à fait normal et naturel de désirer mourir, tellement la vie sera moche pour presque tout le monde. Mais ici, le Seigneur demande à ses élus d'attendre dans la patience et la persévérance des saints. Et s'ils sont mis à mort, ils en seront reconnaissants à cause de cette promesse. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Car Jésus récompensera leur fidélité envers lui. La récompense de la fidélité. Vous comprenez pourquoi je ne crois pas que ce verset soit approprié pour des funérailles se déroulant actuellement, surtout si le mort a vécu dans la ouate pendant toute sa vie. McGee racontait aussi la vie de cet homme qui avait vécu au Texas. Il avait été élevé dans le luxe, et rendu à l'âge adulte, il avait hérité du ranch de son père. Cet homme n'a jamais travaillé de sa vie. Il s'est amusé avec son ranch pendant toute sa vie, en perdant plus d'argent qu'il n'en gagnait. Et quand il est mort, le prédicateur a utilisé ce verset à son enterrement. Parfois, les gens abusent de la parole de Dieu. Ce verset était cité complètement hors de son contexte. Mais pour les élus de la grande tribulation, la mort sera précieuse, contrairement aux chrétiens de notre génération qui se la coule douce. Le texte nous dit « car leurs œuvres les suivent ». Dans notre temps, voué au confort et à la loi du moindre effort, beaucoup de chrétiens se contentent de savoir qu'ils sont sauvés. Ils se disent alors que rien ne les oblige à obéir à la volonté de Dieu pour leur vie, quand cela s'avère contraignant, car ils sont sauvés, quoi qu'ils fassent. C'est vrai, bien sûr. Jésus-Christ est le fondement de notre salut. Mais il nous incombe de construire sur ce fondement. Car au ciel, on trouvera des chrétiens très riches et d'autres très pauvres. Lisons 1 Corinthiens chapitre 3, versets 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Vous avez personnellement reçu le Seigneur Jésus-Christ? C'est très bien. Vous irez au ciel. Mais comment vivrez-vous là-haut? Pensez-vous que Jésus plaisantait quand il enseignait dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21? « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. rappelons-nous que nos œuvres nous suivront au ciel. Dieu ne nous sauvera pas à cause de nos bonnes œuvres, mais il nous récompensera pour elles. Ici-bas, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres, mais pour nos bonnes œuvres. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de ses enfants afin qu'il les accomplisse. De la même manière, les élus ayant vécu pendant la grande tribulation seront récompensés pour leur fidélité, leur patience et leur courage. Nous déterminons maintenant, ici-bas sur terre, quel sera notre niveau de vie éternelle. Une avant-première de l'Armageddon. Revenons à notre texte de l'Apocalypse en lisant chapitre 14, le verset 14. « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée est assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée est assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » L'apôtre Jean nous rapporte les événements dont il est le témoin au meilleur de ses capacités. Celui qui ressemble à un fils d'homme est bien entendu le Seigneur Jésus-Christ. La nuée blanche est en quelque sorte sa carte de visite, comme il l'a annoncé lui-même peu avant sa crucifixion dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24 verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Pourquoi les tribus et les nations de la terre se lamenteront-elles quand elles verront Jésus-Christ redescendre sur terre dans toute sa gloire? Parce qu'elles n'auront pas cru au nom de Jésus-Christ quand il était venu à elles avec douceur et humilité. Mais quand il reviendra dans la gloire, elles prendront conscience de leur erreur. Elles se lamenteront, car il se présentera alors devant elles, non plus comme un sauveur, mais comme un juge, ayant sur sa tête une couronne d'or. Cela nous confirme qu'il s'agit bien du Seigneur Jésus-Christ. Il est la figure centrale, l'acteur principal et le héros du livre de l'Apocalypse. On y trouve une description de lui à laquelle nous ne sommes pas habitués, mais elle est la pure vérité. Il est non seulement le prophète, le sacrificateur et le sacrifice, il est également le roi, et il assumera pleinement ses fonctions de roi du monde lorsqu'il reviendra sur la terre. Et dans sa main, une faucille tranchante. Le monde se représente parfois la mort comme un squelette revêtu d'une grande robe noire ayant une faucille tranchante à la main. Il est tout à fait normal que l'Église et le monde ne se représentent pas Jésus-Christ de la même manière. Car, comme l'apôtre Paul le mentionne dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 15 et 16, Jésus n'a pas la même apparence. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent, aux uns une odeur de mort donnant la mort, aux autres une odeur de vie donnant la vie. Cette faucille tranchante établit à la fois la fonction de roi et de juge de notre Seigneur Jésus-Christ. Newell attire notre attention sur le fait que le mot « faucille » apparaît 12 fois dans toute la Bible. Et parmi ces 12 fois, plus de la moitié, soit 7 fois, apparaissent dans les 5 versets de notre passage. Le temps de la grande moisson approche. L'heure de la moisson. Apocalypse chapitre 14, versets 15 et 16. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La moisson de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. « Lance ta faucille et moissonne. » Fait référence au jugement de Dieu s'exerçant sur les habitants de la terre. Le Créateur de l'univers est très patient. Cela fait presque 2000 ans qu'il patiente, et le compteur roule toujours. Mais un jour, il viendra trier le bon grain et livrer. Relisons donc la conclusion de cette parabole bien connue que nous pouvons retrouver dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 40 à 42. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Dans cet évangile de Matthieu, la récolte est souvent identifiée avec le témoignage chrétien. On encourage les croyants à prier pour les ouvriers dans la moisson. Cependant, le concept de récolte ne doit pas être pris en ce sens, dans le contexte de notre verset. Car le travail des croyants consiste moins à récolter qu'à semer la parole de Dieu. Rappelez-vous cette autre parabole classique, toujours dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 13, verset 4. Un semeur sorti pour semer. Voilà en quoi consiste actuellement le cœur du christianisme. Le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Il est le semeur et la semence et la parole de Dieu. Le champ de moisson est le monde. Le semeur jette sa semence dans le monde. Un jour, il récoltera, mais seulement à la fin de l'âge présent. Notre tâche n'est pas tant de récolter, mais plutôt de semer. Pour cette raison, je ne m'inquiète pas trop des résultats de mon ministère. Par contre, j'essaie de m'acquitter de mon mieux, de mon œuvre de semeur. Je fais de mon mieux pour répandre la parole de Dieu avec les moyens que le Seigneur Jésus me donne. Car mon travail est de semer. Le nombre de personnes qui se convertissent par l'entremise de mon ministère de pasteur ou d'annonceur à la radio n'est pas vraiment ma responsabilité. Je me contente de semer la parole. Le Seigneur Jésus est celui qui récoltera, et la récolte aura lieu à la fin du temps présent. Voilà la scène qui nous est présentée ici dans le livre de l'Apocalypse. Notez les instructions de Dieu le Père à son Fils dans le psaume 2, versets 7 à 9. « Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. » Tu les briseras comme le vase d'un potier. Cela s'est-il passé quand Jésus s'est incarné? Non. Il ne s'agit pas ici d'un texte se rapportant aux missions. Quand, alors, aura lieu cette scène? Au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, à la fin de la grande tribulation, lorsqu'il reviendra marcher parmi nous en tant que juge. Car l'heure de moissonner est venue. Cette parole cadre très bien avec les paroles prononcées par le Seigneur Jésus lui-même lorsqu'il explique le sens de la parabole de l'ivraie dans Matthieu chapitre 13, verset 39. La moisson, c'est la fin du monde. Le temps des moissons n'est pas encore venu. Il viendra un jour, mais pour le moment, concentrons-nous sur notre tâche qui est de semer. N'attachons pas tant d'importance au nombre de personnes qui reçoivent le Seigneur Jésus-Christ. Contentons-nous de répandre autour de nous la sainte parole de Dieu, et l'Esprit de Dieu s'arrangera avec les résultats. Le temps de la récolte nous est indiqué dans l'Ancien Testament, entre autres le prophète Joël, chapitre 3, versets 13 et 14. « Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez. » Car le pressoir est plein, les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le temps de la moisson sera au grand jour de l'Éternel, ce jour redoutable, une récolte sanguinaire. Revenons à l'Apocalypse, chapitre 14, versets 17 et 18. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. » Le temple, qui est dans le ciel, nous rappelle l'Ancien Testament beaucoup plus que l'Église. La faucille tranchante indique le jugement. Vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs, porte l'idée de raisins très juteux. Par cette métaphore, l'auteur nous introduit à une autre scène, celle de la bataille finale d'Armageddon. Pour comprendre le lien entre les raisins et la récolte, revenons en arrière dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 63, versets 1 à 6. « Qui est celui qui vient d'Édom? De Botsra, en vêtements rouges, en habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements, et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Je regardais, personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide, et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur, et j'ai répandu leur sang sur la terre. » Cette scène, très intense et plus grande que nature, ne représente pas Jésus-Christ lors de son incarnation sur terre, il y a 2000 ans. Elle le représente lors de son retour, dans un avenir indéfini, lorsqu'il reviendra pour juger le monde. À l'époque du prophète Ésaïe, on embarquait dans le pressoir afin de fouler le raisin avec ses pieds nus. Le jus écarlate jaillissait des grappes sous la pression des pieds et tachait les vêtements. Les spectateurs de la scène voient les vêtements du Seigneur Jésus souillés, non pas par le jus, mais par le sang des impies. Ces vêtements sont tellement tachés de sang qu'ils ressemblent aux vêtements d'un moissonneur quand il débarque du pressoir à raisin. Lorsque Jésus-Christ est venu marcher parmi nous la première fois, c'est son propre sang qu'il a versé pour les pécheurs. Mais lorsqu'il reviendra, c'est le sang des pécheurs rebelles et endurcis qui coulera sur la terre. Plus tard, au chapitre 16, verset 16, nous verrons que Jésus rassemblera ses pécheurs dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. En fait, il ne s'agit pas seulement d'une bataille, mais d'une guerre. Dans la prophétie d'Ésaïe, on remarque que le Seigneur Jésus est seul à fouler dans la cuve. C'est une scène terrifiante. Il n'est guère étonnant d'apprendre qu'en ce temps-là, les habitants de la terre imploreront les rochers de tomber sur eux, afin de les cacher de la colère de l'agneau. Ce sera la triste fin de cette civilisation qui, à la tour de Babel, a démontré une arrogance rebelle envers Dieu. Depuis, cette arrogance n'a cessé d'augmenter, au point que les impies en viennent à remettre en question l'existence même de Dieu. Mais un jour, ils ne pourront plus nier les faits. Rendons gloire à Dieu, pendant qu'il est encore temps. Oui, chers amis, c'est le temps de la patience de Dieu, c'est le temps de la grâce de Dieu, la grâce envers des pécheurs rebelles, envers des coupables. Il est prêt à pardonner. Si toi, de ton côté, tu confesses le péché, le mal que tu as commis, les blessures que tu as faites à l'égard de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ, regarde vers la croix. Dieu pointe présentement son Fils sur la croix afin que toi, tu puisses le regarder, le contempler et de trouver grâce et de, par le fait même, d'implorer sa grande miséricorde afin que tu puisses partir de ce lieu bien précis qu'est la croix, un lieu spirituel, il va sans dire que ton âme soit touchée, émue par ce sacrifice, que tu puisses retourner chez toi pardonné, réconcilié avec Dieu. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Apocalypse, chapitre 14, les versets 19 et 20. Bonne lecture!
Merci, Régent. Aujourd'hui, tu nous as mentionné l'importance pour les croyants d'accomplir de bonnes œuvres. Mes amis, on sait qu'on n'est pas sauvés par nos œuvres, mais qu'on est sauvés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin qu'on les pratique. Et Régent nous en a parlé de nouveau au cours de l'émission, et pour souligner l'importance, il a cité le 6e chapitre de l'Évangile de Matthieu, des versets 19 à 21, Alors permettez-moi de les répéter afin que tous les croyants soient encouragés à ne pas se relâcher. Il dit ceci, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Mes frères, mes sœurs en Jésus-Christ, on peut voir par les enseignements qu'on reçoit ces jours-ci dans le livre de l'Apocalypse qu'il nous reste peu de temps pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Moi, je vois ces œuvres comme des cadeaux que Dieu nous offre parce qu'il nous aime et qu'il veut qu'on soit riche quand on va passer l'éternité au ciel. Il veut qu'on s'amasse des trésors. Quel amour! Dieu veut nous récompenser. C'est lui qui a payé pour qu'on soit sauvés. Et une fois qu'on est des enfants de Dieu, il veut nous donner encore plus que le salut, plus que l'assurance de la vie éternelle. Il veut nous donner plein de cadeaux quand on va arriver au ciel. Quel Dieu merveilleux! Vous trouvez pas? Et si toi, mon ami, tu n'as pas encore reçu le premier cadeau que Dieu veut t'offrir, qui est le don gratuit de la vie éternelle, eh bien, peu importe qui tu es, peu importe si tu es la meilleure des personnes ou la pire, Dieu, dans son amour, veut t'offrir ce cadeau. Il ne veut même pas que tu le mérites. D'ailleurs, personne ne mérite d'aller au ciel, puisqu'on est tous des pécheurs, comme c'est si bien expliqué dans la parole de Dieu. Alors, en ce moment même, mon ami, Dieu te fait une offre que tu ne dois pas refuser. Cette offre, c'est le don gratuit de la vie éternelle. Tu pourrais être certaine que si tu devais mourir aujourd'hui ou la nuit prochaine, peut-être dans ton sommeil, tu irais tout droit au ciel. Jésus a dit ceci quand il est venu sur la terre. « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Mon ami, Christ est mort pour tes péchés. Il a payé ta dette en entier et maintenant, il t'offre un billet gratuit pour le ciel. À toi de l'accepter ou de le refuser. Mais n'attends pas demain, tu ne sais même pas si tu vivras demain. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Mon ami, n'essaie pas de te sauver par tes propres moyens. Il y a juste un moyen d'être sauvé, un seul chemin. Jésus a dit ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors mon ami, en ce moment, à l'instant même, reconnais que tu es un pécheur, une pécheresse. Repens-toi. La repentance, c'est un changement de cœur à l'égard du péché qui fait qu'on veut s'en éloigner. Et mon ami, demande pardon à Dieu pour tes péchés. Et accepte Jésus comme ton sauveur personnel, comme ton Seigneur. Un Seigneur, c'est un maître. Et Jésus est un maître plein d'amour pour toi. Et il veut être avec toi jusque dans l'éternité.
Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer?
Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Mmh. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Mmh. Alors, les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement.
Wow!
Gratuitement. En plus d'entendre un merveilleux témoignage, c'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, a changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie?
Eh oui! Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec.
Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous?
Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou via courriel
à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. Chers amis, au revoir.
Bye-bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.